On est confronté à la maladie, à la mort, au vieillissement.
Il faut être fort.
Il faut être fort, ouais. Mais bon, ça reste un beau métier.
C'est un beau métier, c'est sûr. Humainement, c'est un métier magnifique.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
À 180 degrés.
Pour cette nouvelle saison de podcast, je vous emmène dans les Hauts-de-France où Rémi Dubroc a préféré la blouse d'infirmier à la dosette de café, quand prodiguer des soins devient bien plus qu'une simple relation soignant-soigné. Bonjour Rémi.
Bonjour Émilie.
Je suis ravie de vous rejoindre à Lille, quartier de la Madeleine, où vous avez commencé vos tournées avec les petites sœurs des pauvres. Et là, on continue, on va aller voir madame.
Madame Lehambre, qui est une patiente diabétique. Donc là, on y va pour faire une glycémie capillaire, donc pour évaluer son taux de sucre dans le sang, et donc lui faire son insuline, ainsi que lui donner ses médicaments.
Allez hop, on y va. Rémi, vous avez un master en sciences humaines en poche. Vous avez été vendeur 4-5 ans, je crois, chez Nespresso. Comment on passe de la capsule à café à donner des soins à infirmier libéral ?
Quand j'étais en master 2, je travaillais à côté, donc le samedi uniquement chez Nespresso, où je vendais des capsules. Et à la fin de ce master, étant donné que je ne trouvais pas de travail, j'ai accepté un temps plein chez Nespresso et j'y suis resté 3-4 ans, puisque finalement c'était quand même assez agréable. Il y avait une bonne ambiance, une bonne équipe. Et puis au bout de 4 ans, je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire enfin un métier pour lequel j'ai un peu plus d'engouement, on va dire. Et donc j'ai commencé la préparation du concours d'infirmier par une prépa du soir uniquement à côté de mon travail. Et donc j'ai obtenu le concours, j'ai négocié une rupture conventionnelle chez Nespresso et j'ai intégré l'école d'infirmiers. Donc à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure du métier d'infirmier, sachez juste qu'aujourd'hui il n'y a plus le concours d'entrée dans les IFSI, hein, ce qu'on appelle les écoles d'infirmiers. Et désormais c'est juste une sélection sur dossier avec Parcoursup.
Rémi, il faut dire que votre envie aussi vient peut-être d'un exemple, c'est celle de votre sœur.
Tout à fait. Ma sœur est infirmière et du coup, j'ai réalisé un stage avec elle. Donc elle travaille au CHR de Lille en diabétologie. J'ai effectué un stage de quelques semaines en service de diabétologie. Et c'est vrai que je me suis tout de suite senti à l'aise. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi ? Et j'ai passé le concours et me voici aujourd'hui après 2 ans de diplôme infirmier libéral. Le cabinet, il est juste là.
C'est le cabinet où vous faites des remplacements ?
Oui, tout à fait. Donc là, on passe devant le cabinet de Louise et Stéphanie, qui sont les infirmières que je remplace.
Hello.
Bonjour, mademoiselle. Je suis l'assistante de Rémi aujourd'hui.
Vous avez un bon professeur, vous avez de la chance.
Comme d'habitude, on va commencer par la petite glycémie capillaire au niveau du doigt pour surveiller le diabète.
Hop. La machine de Rémi, ça va bien. Hein.
Oui. On attend la réponse du lecteur de glycémie. Et donc, vous êtes à 1,82.
Ah ben, c'est parfait, j'ai mangé une pomme. Alors, c'est très bien.
Donc là, je note ici...
Vous savez, c'est un peu olé-olé, quelquefois, ici. Hein.
C'est-à-dire ?
On s'amuse un peu, quoi.
Ah, bah,
enfin, moi, je m'amuse un peu. Hein, je ne sais pas si Rémi s'amuse.
Mais si, évidemment.
Moi, je m'amuse.
On se voit quand même 3 fois par jour.
Ah oui,
oui.
Et justement, qu'est-ce qui représente Rémi ? Parce que c'est pas simplement donner des soins, c'est les relations humaines, tout simplement.
D'abord la confiance. J'ai confiance en la façon dont il pratique son métier. Il y a une relation humaine qui s'établit. Il est avec deux personnes que j'aime beaucoup. Les deux infirmières avec qui il est, ça fait un trio extraordinaire. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance.
On a aussi beaucoup de chance de vous avoir.
En galant homme, vous ne pouviez pas faire autrement.
Je vous donne vos médicaments du soir.
J'allais dire qu'avec mes trois infirmiers, je crois que je ne serai pas si bien. Je crois que je serai à l'hôpital et que le moral, ça fait beaucoup. Il m'apporte du bonheur. Il me faut en dépasser la maladie.
C'est un métier dans lequel, forcément, il y a toujours un engagement émotionnel.
Oui.
Puisqu'on est dans une relation humaine. Oui. Donc, qui dit relation humaine, dit émotion, sentiment.
Qu'ils sont malades.
Tout à fait. On est confronté à la maladie, à la mort, au vieillissement.
Oui. Il faut être fort.
Il faut être fort, oui. Ah. Mais bon, ça reste un beau métier.
C'est un beau métier, c'est sûr. Humainement, c'est un métier magnifique.
Hop, on va faire l'aérosol. Voilà.
J'ai l'impression qu'il se moque de moi avec non. ça. Non, il me fait jouer de la trompette tous les jours.
À demain matin, on prend les mêmes et on recommence.
Et on recommence, avec plaisir. Vous le savez bien. Au revoir. Yeah. Au revoir, mademoiselle.
Rémi, ça doit faire plaisir d'avoir autant de compliments.
C'est bien d'avoir un retour sur son travail. Et ici, pour le coup, en fait, le principal retour que l'on a, c'est les patients. Contrairement au milieu hospitalier, où on a une hiérarchie qui est très présente, c'est les patients qui nous rendent le truc. Donc, c'est plutôt appréciable.
Vous parliez du milieu hospitalier. Vous avez fait vos 18 mois
voilà.
sur un stage. Pourquoi vous n'avez pas voulu continuer, j'allais dire ?
En fait, moi, quand j'étais en troisième année d'études d'infirmier, j'ai fait un stage en libéral à Waterloo. Et en fait, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit, je fais mes 18 mois en hospitalier. Et dès que je peux, puisque c'est une obligation, on est obligé de faire 18 mois en hospitalier. En fait, c'est un forfait, un nombre d'heures à respecter avant de pouvoir faire du domicile. Puisqu'on part du principe où à domicile, en fait, on est seul face aux patients. Donc forcément, il y a un minimum de connaissances et d'expérience à avoir avant de se retrouver seul face aux patients. Maintenant, on va aux promenades, à mi-chemin entre le domicile et l'EHPAD. On est sur ce qu'on appelle un foyer autonomie. Donc c'est des personnes âgées qui vivent en collectivité. Ils ont chacun leur appartement, leur petit studio. Et donc, il y a des activités en commun. Et il y a la possibilité de prendre des repas en commun. Mais contrairement à un EHPAD, on n'est pas sur une structure qui est médicalisée. Et c'est des personnes qui sont autonomes.
Est-ce que ça faisait partie un petit peu des exigences de ce nouveau métier ? Savoir jongler entre différentes structures ?
Oui, tout à fait. Après, ça, c'est quelque chose vraiment que l'on découvre sur le terrain. Après, on nous prépare quand même à tout ça, puisque c'est vrai que durant les stages de l'école, en fait, on est obligé de faire un certain quota de stages à effectuer dans différentes structures. Donc, à l'issue des trois années d'études, on est censé avoir vu un peu les différents types de structures, c'est-à-dire le milieu hospitalier, l'extra-hospitalier, donc ça peut être le domicile, ça peut être un stage avec une infirmière scolaire en entreprise, mais également tout ce qui est psychiatrie et médico-social. Donc on nous habitue, on essaye quand même de nous habituer, de nous apprendre à nous diversifier.
Et vous parliez des stages à l'école, est-ce que c'est pas un peu compliqué de se retrouver avec des post-bac qui sont comme vous en apprentissage ?
C'est quand même une source de richesse. Après, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. En fait, je pense que j'ai pris un coup de vieux. Je me suis rendu compte que j'avais vieilli. C'est ça. Après, voilà, j'avais à l'époque un peu plus de 10 ans, plus que. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un décalage qui se crée forcément dans le rapport aux apprentissages et surtout par rapport aux enjeux, en fait. Les enjeux ne sont pas les mêmes puisque pour eux, finalement, c'est des études post-bac. Pour certains, il y aura derrière une reconversion où ils vont encore changer d'avis. Tandis que moi, j'avais un peu plus de pression de me dire j'ai pas le droit à l'erreur. En plus, en sachant que j'étais financé par Pôle emploi, je pouvais pas vraiment redoubler au risque de ne pas avoir mes trois années de financer.
parce que votre formation a été entièrement financée par Pôle emploi.
Qu'à l'époque, en fait, donc à l'époque, c'était il y a 2 ans et demi, donc c'est pas si vieux que ça, ça faisait partie des formations prioritaires. Donc moi, les 3 années d'études ont été financées par Pôle emploi. Durant les 2 premières années, j'ai eu le maintien de mon revenu, en fait, étant donné que j'ai travaillé avant. J'ai eu le maintien de l'allocation chômage. Et la 3e année, j'ai eu ce qu'on appelle un fonds d'aide exceptionnel. Je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas, la 3e année aussi, j'ai eu une petite rente qui m'a permis de pouvoir engager cette reconversion en toute sérénité.
Et parallèlement, vous étiez suivi par un conseiller Pôle emploi tout du long ou pas ?
Oui, tout à fait. J'ai été accompagné durant les 3 années, de la naissance du projet jusqu'à la fin. Un accompagnement global.
À 180 degrés.
On arrive chez Madame Moreau, qui est ma petite chouchoute.
Hello ! Ça va ?
Bonjour.
Je suis
bonjour.
Je lui ai dit que vous étiez ma petite chouchoute.
Ah bon,
voilà. C'est plus un secret.
Oui, c'est plus un secret pour personne.
Donc là, pour Madame Moreau, on est sur une installation de collyre. Voilà, et on a aussi... Ah oui, il ne faut pas oublier les médicaments. Donc, je prépare ceux du matin que je divise en 2.
C'est sympa, il y a même une photo de Rémi chez vous, du coup.
Bah oui.
Et de son mari. Il fait un peu partie de la famille.
Ouais. Voilà, c'est comme un petit-neveu. Je n'ai pas de famille. Donc, les infirmières qui passent, les infirmières, c'est mes amis. Mais ça fait partie de ma famille, quoi. Quand on a quelque chose, quelquefois, le docteur, il dit pas toujours. Donc, on le demande aussi. Ce qu'on a, si on n'est pas bien, si on a de la fièvre. L'autre fois, je lui ai dit que j'allais mourir le matin. Il revient à midi, il dit « Vous êtes là ?» Alors après, le soir, comme ça, ben, je repense dans la journée à ceux qui sont venus.
Et on se revoit demain.
Allez, à demain.
C'est émouvant, Rémi, au final, quand on les entend.
C'est vrai que c'est émouvant, mais parfois, ça fait un peu peur. C'est vrai que moi, j'ai aussi besoin de me protéger de la relation. C'est vrai que j'ai toujours peur de trop m'engager dans une relation. Et je pense qu'il faut aussi, parfois, adopter une posture professionnelle. En fait, il faut toujours jongler entre posture professionnelle, une légère distance qui va permettre de te protéger et parfois aussi se laisser aller aux émotions, aux sentiments, puisqu'on reste quand même des êtres humains. Donc, c'est inévitable.
Chose que vous n'aviez pas forcément en tant que vendeur.
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, pour le coup, en tant que vendeur, la relation de base, elle est faussée par l'objectif qui est de vendre.
Hello, hello. Ça va ?
Bonjour.
Je suis avec Émilie Jolie.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Et donc il y a mes carrés qui a chuté. C'était quand samedi ?
Oui, je me suis cassé la main.
Voilà, il y a une suspicion de fracture et de manche. On changera la petite compresse.
Oui, oui parce que c'est gênant, puis elle va être sale.
Oui, bah ouais, vaut mieux.
Vous voulez pas ouvrir la fenêtre un petit peu là.
Bon, ça va, ça a été ?
Bon, ça a été. Puis il y a la directrice qui est là aussi. Elle est venue nous présenter un nouveau résident.
Il a l'air sympa.
Ouais.
Bah, c'est bien, hein, monsieur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, hein.
Oui, plus de femmes que d'hommes.
Ouais.
Bah, c'est-à-dire, c'est les hommes qui me rendent bon, hein.
Oui.
Comme infirmier ? Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Mais alors, le métier d'infirmier, c'est un métier qui s'ouvre aux hommes. Oui, quand même de plus en plus. Bon, après, je dirais, dans notre promo, par exemple, il devait avoir quoi, moins de 10% d'hommes. Ouais. Mais après, en stage ou au sein des structures, être un homme, c'est quand même apprécié. Puisqu'on est quand même au sein d'équipes 100% féminines. Et du coup, une présence masculine, ça a parfois tendance à apaiser un peu les équipes. Ou c'est une autre approche des soins et une autre approche de la relation. Ouais. Bon, on va vous laisser tranquille.
Eh ben, merci.
Et puis, de toute façon, on se revoit demain.
On se revoit demain, oui.
Rémi, vous avez fait 18 mois au milieu hospitalier, comme c'est obligatoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu continuer et voulu être libéral ?
En fait, moi, c'était mon objectif, c'était mon projet professionnel, c'était de faire du domicile. Puisque j'ai eu la chance en troisième année d'études de faire un stage avec une infirmière libérale. Et je me suis dit, dès que j'ai le quota d'heures, je ferai du domicile. Et ça a été mon fil conducteur. Et au bout des 18 mois, j'ai quitté le milieu hospitalier pour faire du domicile.
Qu'est-ce qui est le plus dur actuellement dans le fait d'être libéral ? Ce sont les horaires qui sont coupés ? C'est le fait de devoir s'occuper de ses papiers, l'URSSAF
Alors, je dirais ce qui est le plus compliqué, c'est le rythme qui est quand même assez soutenu. On est toujours en mouvement, on est toujours dans l'action. Donc parfois, physiquement... c'est un peu soutenu. Et ensuite, moi, j'ai de la chance de ne pas avoir de charges administratives, puisque comme je suis remplaçant, je ne gère pas du tout la facturation. Donc là, c'est plutôt un bon point. J'ai été accompagné, en fait, par mes copines infirmières libérales. Donc elles m'ont accompagné vraiment dans les démarches, dans l'inscription à l'ordre infirmier, dans toutes les différentes étapes avant de pouvoir s'installer en libéral. Et c'est vrai que souvent, c'est un processus ça rebute souvent les gens parce qu'il y a quand même une charge administrative pour commencer qui est assez lourde.
Comment est-ce qu'elle a été perçue, votre reconversion dans la famille, votre mari ?
L'objectif final, en fait, c'était d'être épanoui et heureux. Donc j'avais forcément... le soutien de mes proches et de ma famille, et en particulier de ma sœur. C'est vrai, elle m'a beaucoup accompagné lors de mes études, elle m'a aidé pour mon mémoire, puisqu'elle travaillait en diabéto, et j'ai choisi, non pas par hasard je pense, mais j'ai choisi de traiter le thème du diabète pour mes mémoires de Master 2. Donc elle m'a vraiment accompagné tout le long de ma reconversion.
Et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense ?
Mon mari me soutient à 200% puisqu'il est aussi lui-même actuellement dans une démarche de reconversion. De base, il est ingénieur architecte et là, il a eu envie... En fait, avec le Covid, il a commencé à s'intéresser au milieu du verre. Il a fait quelques ateliers découvertes comme on peut faire dans différents domaines, dans l'artisanat, des ateliers... un peu do it yourself pour fabriquer des choses. Et donc lui, il a choisi de s'intéresser aux vitraux. Et là, il a commencé un contrat pro chez un vitrailliste à Sizouin.
D'accord, bon, ça échange niveau reconversion professionnelle. Bon, on va aller voir les derniers patients.
Oui, on y va.
On entend souvent dire qu'en tant qu'infirmier libéral, on peut avoir du mal à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ?
Je pense que c'est une idée reçue, puisque en fait, nous, on est payé à l'acte, donc on a une nomenclature. À chaque acte correspond une tarification. Donc après, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais globalement, on gagne plutôt bien notre vie. Avec le Covid, on a pu en plus faire ce qu'on appelle des vacations. Donc on a pu aider les EHPAD par exemple, on a pu faire la vaccination, les tests PCR. Et c'est aussi des opportunités qui peuvent mettre du beurre dans les épinards. Par exemple, pour une demi-journée de vacation, on était payé 220 euros. C'est quand même assez confortable.
Et le but, c'est d'être au final dans un cabinet où vous voyez bien continuer comme ça ?
Là, c'est vrai que faire des remplacements, c'est un peu fatigant. Puisque je dois jongler entre plusieurs cabinets. Donc mon objectif, ça serait de me poser dans un cabinet. Voilà, on verra ce que la vie me réserve.
Quels seraient vos conseils pour tous ceux qui n'oseraient pas se lancer ?
Je dirais que de manière générale, il faut dans la vie oser, il faut entreprendre, il faut vivre. Je me dis que j'ai choisi ce métier parce que il y a une multitude de possibilités. On peut être infirmier en milieu hospitalier, on peut être infirmier à domicile comme je fais actuellement, mais je pourrais par exemple être infirmier en milieu scolaire, je pourrais être infirmier en entreprise, je pourrais être cadre de santé. J'ai une multitude de possibilités. Donc je me dis que on verra ce que l'avenir me réserve, mais c'est vrai que j'ai peut-être pris goût aussi à
une forme de liberté.
À une forme de liberté, tout à fait, oui.
Ça y est, on a fini la tournée.
Et oui, on a fini la tournée.
Et ben encore merci, Rémi, de m'avoir fait découvrir le métier d'infirmier libéral. Et puis, bonne continuation.
Merci à vous, Émilie. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés pour cette tournée du soir.
À 180 degrés.